Chapitre 14. Une première. Quel malheur c'est, lorsqu'on veut se consacrer aux lettres, d'avoir un cousin homme de goût. Si le pauvre Mitre avait été tout simplement un de ces candides provinciaux grisés par la lecture des journaux du cercle, qui rêvent le soir de vie littéraire en regardant la lune se lever sur Paris, et si j'avais trouvé au fond de sa malle les mille riens charmants, romans, brochures ou gazettes, évanouis aussitôt qu'envolés, mais où se reflète le Paris de chaque jour comme un paysage dans la bulle de savon qui passe, effrayé peut-être de voir le peu de place qui tient la poésie et ne me sentant pas le courage d'être boursier, reporter ni avocat, j'aurais bien vite fait mon deuil de la gloire et serais resté dans Canteperdry à tailler ma vigne. Hélas, le pauvre Mitre était un esprit rare et les 10 ou 12 livres, choisis avec un sens exquis qu'il me laissa, m'avaient donné sur Paris les idées les moins raisonnables du monde. Ne me figurais-je pas, après les avoir lus, que j'allais vivre dans un pays fait tout exprès pour les poètes, où les paroles seraient harmonieuses comme des vers, les femmes belles, les hommes sans exception, spirituels et généreux, où l'on aurait enfin d'autres soucis, artistes et lettrés, que de fumer la pure ambroisie dans des pipes de diamants et d'or. Pauvre Mitre fit sagement de mourir jeune et de voir toutes ces belles choses de loin. Pour moi, que vouliez-vous que je devinsse, débarquant ainsi dans Paris, avec mes idées et mon costume de l'autre monde, un double amour embrouillé au cœur, tout bariolé d'illusions, tout pomponné d'espérance et plus embarrassé de ce beau plumage que ne le serait un oiseau des îles, perdu un jour de pluie en plein bois de Vincennes ou de Meudon. Je devais être fort comique la première semaine. Soit habitude de méridional, soit que je voulusse fuir tous ces promeneurs qui se retournaient sur mon passage, pour ces deux motifs peut-être, j'avais soin de prendre, dans les rues, le trottoir au soleil et je m'en allais, tout seul, suivi de mon ombre romantique. Je cherchais le Paris des poètes. Je le cherchais longtemps, un peu partout, sur les boulevards, dans les cafés, et chaque fois que je voyais quelques beaux garçons, à chaîne d'or, bien gantés, l'œil souriant et la barbe heureuse, descendre de voiture en joyeuse compagnie, « Ce doit en être un, me disais-je, et j'avais envie de me présenter. » Que de négociants fortunés, je pris ainsi pour des poètes. Je me promènerais encore, si certains soirs, où j'errais mélancolique devant les théâtres illuminés, un monsieur plein d'obligeance ne m'eût offert de me vendre un fauteuil d'orchestre. J'acceptai, non sans faire violence à ma timidité. Il m'en coûta un louis d'or de ma sacoche, mais je ne le regrettais point. Jugez donc, c'était justement une première. Jamais de la vie je n'avais mis le pied dans un théâtre. Aussi de voir cette salle éblouissante, le lustre qui étincelait, le cristal des girandoles, le velours rouge et l'or des loges, de coudoyer ces hommes en habits élégants, sur le front de qui, toujours à mes préoccupations, je cherchais à deviner le génie, de respirer le parfum délicieux et nouveau qui descendait des loges et du balcon comme d'un vrai bouquet de femmes, d'éprouver tout cela et de me sentir, moi, Jean des Figues, au beau milieu, une émotion subite me vint. La musique commence, le rideau se lève, on applaudit le décor, les comédiens paraissent avec les comédiennes. Mais Jean des Figues n'entend rien, ne regarde rien. Grisé de sons, de couleurs et de parfums, Jean des Figues s'est dédoublé, et des hauteurs où plane son rêve, il s'aperçoit lui-même distinctement, assis avec son juste corps écarlate, dans ce petit cube de pierre, blanc au dehors, doré par dedans, où les artistes et les poètes se réunissent pour goûter en commun les plus exquises des jouissances humaines, cependant que la terre tourne, emportant tout également dans son indifférence souveraine, Paris, le Mont-Blanc, la Palestine et la Cigalière, blanqués avec les empereurs, et Jean des Figues, assis dans sa stalle, et les imbéciles qui restent notaires à Canteperdry. Alors, transporté d'admiration pour tant de grandeur cachée dans cette apparence petitesse, Jean des Figues, la première fois de sa vie, se sent fier d'être homme. Il a des larmes dans les yeux, il est heureux de vivre, il respire avec une volupté attendrie cet air du théâtre, un peu chaud, il est vrai, mais si embaumé, et se tournant vers son voisin au moment où le rideau tombe, « « Que c'est beau, monsieur !» lui dit-il. Puis, sans attendre la réponse, il avait tant de joie qu'il lui fallait à toute force en faire part à quelqu'un. Jean Desfigues raconte qu'il s'appelle Jean Desfigues de Canteperdry et ce qu'il vient chercher dans la capitale. Mon voisin, un grand bel homme, fort comme un turc, me laisse parler en me considérant d'un air curieux et non sans sourire dans sa large barbe. Pourtant, une fois que j'eus fini, il ne sourit plus et lui-même, d'un air sérieux, me proposa de me faire les honneurs du théâtre. Nous montâmes ensemble au foyer où jamais je n'aurais eu le courage d'aller tout seul. Là, passant en revue l'assemblée de déesses et de demi-dieux, il me les nomma tous et toutes, petits jeunes gens et grandes dames, cocottes et faiseurs d'affaires, banquiers, gens de ministère et pianistes, tout le personnel des premières représentations. Il mordait sa moustache à chacun de mes étonnements. Mais quand je lui dis l'histoire de la malle et l'idée que je me faisais des gens qui se promenaient devant nous, il éclata si fort et rit si longtemps que j'en devins rouge comme mon gilet. « Les grands hommes de votre cousin, monsieur Jean Desfigues, en voilà un, tenez » fit-il en me montrant un personnage à la physionomie ennuyée qui s'en allait la cravate blanche de travers et courbé dans son habit noir. « C'est le seul qui soit ici, je crois, il vient faire son feuilleton pour vivre. » Ce n'était donc pas pour les poètes qu'était faite la poésie. Alors, pris d'une tristesse profonde, attristé de voir combien la réalité ressemblait peu aux rêves que j'avais faits, je regrettais de plus belle que Blanquet, en s'enfuyant, ne m'eût pas emporté sur son dos avec le reste du sac de figues et sans plus songer où j'étais. « Ah, Mitre, mon pauvre Mitre » m'écriai-je. Mon nouvel ami s'empressa de me mener au grand air.